fini.
Au lendemain des émeutes et après la dissolution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la vie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Vous trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Canu. Nous sommes le jeudi 21 juillet 2016. Et alors bienvenue dans un monde toujours meilleur, un monde où Monsieur Trump a été donc désigné par la Convention républicaine pour se présenter à la présidence des États-Unis d'Amérique, un monde où nous regardons Monsieur Morandini et Monsieur Fogiel s'attaquer en justice pour des histoires lié à des médias, à des drôles de comportements aussi, un monde où en France, eh ben hop, on est reparti avec l'état d'urgence. Nous allons y revenir, puisque Laurent, tu vas revenir justement sur nos libertés avec cet état d'urgence et avec un parallèle avec la Turquie. Nous parlerons aussi de racisme. On parlera de Mike Pence, si c'est ça, c'est on prononce bien. Nous parlerons aussi des barbares. On ira faire un petit tour de l'Arabie Saoudite et puis ce qui nous amènera aussi à parler les barbares de la Turquie. Nous parlons d'un rapport d'Oxfam sur les réfugiés et nous ferons un petit tour par les profiteurs. Les profiteurs, cette semaine, c'est le cartel des camions qui s'est pris une belle amende. Nous parlons de science avec des gorilles lesbiennes, nous parlons de religion, de dopage à la Russe et puis de piétons contre les vélos. Mais tout de suite, cet état d'urgence et ces libertés attaquées une nouvelle fois.
Donc voilà, vous l'avez tous et toutes entendu ou pas, mais l'état d'urgence a donc été prolongé de 6 mois, c'est-à-dire jusqu'à janvier 2017. Voilà, alors c'est pas la seule décision qu'ont fait tous ces élus qui finalement n'ont rien à faire des libertés du peuple, puisque bien évidemment c'est pas eux qui sont touchés par l'état d'urgence, puisqu'ils sont dans les exceptions, ils ne risquent rien, toutes les atteintes aux libertés concernent les autres. Donc quand une minorité de la population impose ses vues, ça donne ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec cet État qui tente à être de moins en moins démocratique. Vous allez me dire, la décision elle est prise démocratiquement, bah ouais, hein. Pétain il a été choisi démocratiquement, Hitler il a été élu démocratiquement, c'est à un moment la démocratie décide de faire des choses non démocratiques. Tout est possible quand les élus sont aussi pourris que ceux qu'on peut imaginer chez nous et ailleurs. Alors, les mesures qui ont été annoncées par le ministre de l'Intérieur, le truc nouveau, c'est dans les zones dites de protection et de sécurité délimitées par les arrêtés du préfet, donc c'est ces zones de sécurité et de protection, il y sera possible de faire des contrôles d'identité, de fouiller les véhicules, les bagages, les personnes. Voilà, un peu, du coup, un peu partout, dès que le préfet décidera, on pourra être fouillé, arrêté, mis à nu, hein, quelque part, sur les décisions de la flicaille, que ce soit le préfet ou le petit flic de quartier. Ensuite, bah bien sûr, vous le saviez tous, la généralisation de l'assignation à résidence pour toute personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Ce qui est intéressant, hein, dans cette assignation à résidence, qu'on a vu beaucoup utiliser, mais bizarrement, pas contre les terroristes. Jamais. Hein. Comme quoi, par contre, elle a été utilisée contre les manifestants écolos, les manifestants contre la loi travail, mais jamais jamais contre les terroristes, hein. Donc c'est bien la preuve que tout ce qui est fait en ce moment se sert du principe de soi-disant lutte contre le terrorisme, bah, pour mettre des mesures répressives contre ceux qui luttent, notamment au niveau syndical, au niveau social, au niveau écolo et dans d'autres domaines. Alors, il y a la possibilité de dissolution des associations et des groupements qui participent à la commission d'actes portant atteinte grave à l'ordre public ou dont les activités la facilitent ou y incitent et qui comprennent en leur sein ou parmi leurs relations habituelles des personnes assignées à résidence. Alors ça va très loin, ça veut dire que si quelqu'un qui est assigné à résidence qui vient participer à Radio Canu, eh ben, ils peuvent dissoudre Radio Canu. Et alors, les commissions d'actes portant atteinte grave à l'ordre public, c'est pas mal flou, et surtout pour les activités qui facilitent cette incitation d'atteinte à l'ordre public. Voilà, il suffit de dire peut-être un jour d'aller manifester contre la loi travail, et ben voilà, Radio Canu sera fermé, ou d'autres, hein, pas que Radio Canu. Voilà ce qui est prévu. Bon, bien sûr, les perquisitions administratives sont de retour en tout lieu, en toute heure, voilà. On connaît les abus, hein, les flics arrivent, cassent tout, ils repartent et ils s'en foutent. C'est-à-dire qu'ils ont tout détruit, votre porte, votre mobilier, tout. Ils n'ont rien trouvé parce que les trois quarts du temps, ils trouvent rien. Hein, parce qu'il y a eu très peu de choses en lien avec le terrorisme, hein, puisque cet état d'urgence, c'est en lien avec le terrorisme. Et en fait, voilà, c'est juste donner du pouvoir aux flics. Alors la nouveauté, c'est que maintenant, en plus de ce qui est remis au goût du jour, voire accentué, il y a des choses totalement nouvelles, notamment que toute personne présente sur un lieu de perquisition pourra être mise en prison 4 heures, sans justification. Voilà, rétention administrative, retenue administrative, 4 heures, comme ça. Je suis pas sûr que l'avocat aura le droit de venir vous voir. Hein, voilà. Ils ont rien à justifier. Il suffit que le flic qui décide ça avertissent le procureur de la République. C'est beau, hein, c'est beau. Tous les pouvoirs sont donnés à la répression, bien évidemment. Alors, ça, c'est le premier volet répressif. Il y a le deuxième, sur la surveillance généralisée des populations, puisqu'ils ont profité de cet attentat pour suivre à peu près toutes les propositions qui avaient été dites par Michel Mercier, hein, qui est membre de l'UDI, en ancien ministre de la Justice, qui voulait gommer ce qu'il appelait, lui, les rigidités de la loi renseignement qui avait été adoptée l'an dernier et qui avait fait pas mal de débats sur la surveillance généralisée des populations. Tout n'était pas passé. Alors, beaucoup de choses étaient passées, hein, sur la surveillance des populations, mais pas tout. Et ben là, ça y est. Ils ont tout fait passer ce qu'ils voulaient. Donc voilà, ils peuvent scanner en temps réel toutes les conversations, les connexions d'un individu suspecté d'activité terroriste. Alors là, la suspicion on ne sait pas où elle commence ni où elle s'arrête. Si elle s'arrête quand l'acte terroriste arrive, je pense. Parce qu'il n'y a plus de suspicion, ils en sont sûrs. Voilà, ça commence, je ne sais pas par où ça commence. Une barbe, je sais pas, une tête qui revient pas aux flics, n'importe quoi. On peut imaginer n'importe quoi, puisque ce n'est pas décrit, hein, dans le projet de loi. Alors, jusqu'à maintenant, cette forme de surveillance, ça portait sur les personnes qui étaient identifiées comme une menace terroriste. C'est la grosse différence. Maintenant, c'est suspecté. Et c'est là la dangerosité, c'est que suspecté, bah, il suffit de dire « Ouais, moi je pense que lui, on le suspecte. » Paf, et c'est parti. Hein. Donc il suffit d'avoir peut-être un jour d'être allé sur un site, d'avoir envoyé un mail avec un mot qu'il fallait pas, des choses comme ça, et vous serez suspecté. C'est beau, hein. Alors, ça rappelle quand même ce qu'est en train de faire la Turquie, ce que tout le monde critique. Mais comme c'est la France qui le fait, il paraît que c'est le pays des droits de l'homme, et ben personne dit rien. Voilà. Alors volontairement, il y a un flou employé dans toutes les mesures pour que ça s'adresse au plus grand nombre possible, notamment sur ces perquisitions informatiques ou ces surveillances informatiques, puisqu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi le développement des perquisitions informatiques. Donc la loi a réformé ce qui avait été voté très récemment sur les perquisitions informatiques. Donc là maintenant, quand ils font une perquisition, ils peuvent tout saisir, tout regarder, tout contrôler, et vous n'avez plus du tout de vie privée. Bref, ce qui ressort de tout ça, c'est que l'État va surveiller le maximum de monde. Et ça sera sûrement très utile en cas de contestation politique ou sociale, voire, on peut imaginer un peu les prochaines étapes, la prison préventive, ça a été demandé par la droite, notamment par le nouveau dictateur de la région, qui s'appelle Monsieur Wauquiez. Bon, vous allez me dire, il a été élu, Monsieur Wauquiez. Mais je suis pas sûr qu'il ait été élu pour faire ce genre de proposition. Je suis pas sûr que, quand il a été élu, il proposait d'arrêter toutes les personnes, de mettre en rétention administrative toutes les personnes suspectées. De préparer quelque chose qui convient pas au gouvernement. Vous allez me dire, les élus, une fois qu'ils sont élus, peuvent faire ce qu'ils veulent. Oui, c'est le principe de cette démocratie représentative. En tout cas, M. Wauquiez, qui reprend tout ce qu'a pu proposer ces dernières années l'extrême droite, mais c'est pas le seul. On a eu l'idée du retour peut-être de la peine de mort, de l'autorisation de la torture, des choses comme ça. Bref, la France n'a rien à envier au nouveau dictateur turc. C'est encore à moi ? Allez, un peu de racisme. Alors, l'attentat de Nice a permis, une nouvelle fois, la libération de la parole raciste. Et on a vu débouler de partout des propos racistes. Et alors que le commun des mortels français qui soit raciste puisse s'exprimer devant la télé, c'est déjà assez choquant, mais que les responsables politiques en profitent pour s'exprimer et exprimer leur racisme, c'est assez choquant. Et là, je vais revenir sur la phrase qui a été prononcée il y a quelque temps au Parlement européen par monsieur Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, il paraît qu'il représente l'extrême gauche. Ça fait peur, hein, l'extrême gauche. En tout cas, aujourd'hui, il représente le populisme, c'est-à-dire que ça lorne plutôt du côté de l'extrême droite. D'ailleurs, il reprend les propos de l'extrême droite, puisqu'il y a cette phrase digne de Marine Le Pen. Je cite, je crois que l'Europe qui a été construite, c'est une Europe de la violence sociale. Comme nous le voyons dans chaque pays, chaque fois qu'arrive un travailleur détaché, qui vole son pain aux travailleurs qui se trouvent sur place. Alors l'idée des travailleurs étrangers qui volent le pain aux Français, c'est une vieille idée de l'extrême droite qui est véhiculée régulièrement et qui est reprise donc par Monsieur Mélenchon. Alors là, tollé, ça réagit. Est-ce que c'est une erreur de Mélenchon ? Il s'est mal exprimé. Bien évidemment non. D'abord, il a une certaine pratique politique qui fait qu'il maîtrise ce qu'il dit. Et puis, il est revenu dessus dans un article du Monde où il est interviewé. Il dit non, c'est une expression populaire, ça n'a rien de xénophobe. Pas du tout. C'est totalement xénophobe et surtout, ça démontre une chose, c'est que M. Mélenchon il fait partie des élites et que, comme toutes les élites, il n'a jamais travaillé. Il n'a jamais été syndiqué, il n'a jamais participé à des vraies luttes sociales et syndicales, parce qu'il sait que quand on a fait ce genre de lutte, on soutient toujours tous les travailleurs, parce que tous les travailleurs sont exploités, les travailleurs qui sont détachés en France, ils ne volent pas le travail, mais ils sont exploités eux aussi, et encore plus que vous et nous, par leur patron, et il faut les aider, et il faut améliorer le social pour qu'il n'y ait plus cette exploitation, et que ces travailleurs, quand ils viennent en France, ils aient le même salaire, les mêmes droits, les mêmes revenus que les travailleurs dits français. Voilà, qu'il y ait une égalité. C'est d'ailleurs une partie du projet qui est en cours de discussion au niveau de l'Europe sur ces travailleurs détachés, puisqu'il y a un projet de réforme. Bon, bref, ce sont vraiment des propos racistes. Alors, c'est pas la première fois, il avait montré son racisme anti-allemand pour dénoncer le capitalisme allemand. Au lieu de dénoncer les entreprises et l'État capitaliste allemand, il avait dénoncé les Allemands tout court, avec des propos qui étaient là aussi, qui tombaient sous le coup du racisme. Mais d'ailleurs, il a basculé depuis un moment du côté du souverainisme et du patriotisme, puisque son slogan, ça s'appelle « La France insoumise ». Et il ne parle pas du tout, contrairement aux idées d'extrême-gauche, d'internationalisme, de soutien à toute la classe ouvrière, à tous ceux qui sont exploités, des choses comme ça. Les arguments classiques de l'extrême-gauche, lui, il ne les reprend pas du tout, donc c'est vraiment quelqu'un qu'il faut sortir de ce classement-là et qu'il faut mettre dans le populisme, c'est-à-dire du côté de l'extrême droite. Alors, dans la série des actes racistes liés à l'attentat de Nice, Alors, on aurait pu imaginer un centre de danse de salsa attaqué, hein, puisque le terroriste faisait de la salsa, les endroits où on vend de l'alcool soient attaqués aussi, puisque le conducteur du camion buvait de l'alcool. Mais non, il y a eu une attaque de mosquée à Bron hier, enfin entre mardi et mercredi, très exactement. Bizarrement, le conducteur du camion, il n'allait pas à la mosquée. Alors bon, c'est tout à fait bizarre, mais c'est quand même une réaction à ça, avec des menaces sur cette mosquée, des tags du style « dehors ou la mort », enfin des choses comme ça. Alors, c'est pareil, on ne sait pas qui l'a fait, le préfet a dit qu'il y aurait une enquête, on a très peu de chances que l'enquête aboutisse, on connaît très bien comment ça se passe, mais on imagine bien des mouvements d'extrême droite faire ça. Sauf que depuis ce qu'on a entendu sur les propos du citoyen lambda à Nice, ben en fait non. En fait, on peut imaginer qu'une bonne majorité des Français sont capables et d'avoir des propos racistes et donc de les mettre en œuvre à travers des tags, voire plus après. Hein, l'histoire nous a déjà montré ce qui peut se passer quand on libère cette parole raciste. Voilà. Et puis la dernier truc sur le racisme, j'aurais pu en sortir d'autres. Hein. Depuis l'attentat de Nice, ça fourmille les propos racistes de partout. Mais il y a un truc un peu bizarre qui est sorti sur la bouse ou le blockbuster, vous appelez ça comme vous voulez, Ghostbusters 3. Donc, j'imagine pas un grand film, pas un film intéressant, pas un film d'auteur. C'est un truc pour les vacances. Mais ce film a subi des attaques incroyables. Alors d'abord, ils ont décidé de faire un film où il y avait que des femmes, c'est des Ghostbusters, on pourrait appeler ça comme ça. Et alors là, il y a eu un déferlement de propos sexistes suite à la bande annonce. Alors déjà, c'était déplacé parce que les femmes aussi ont le droit de chasser les fantômes débiles. Il y a pas de souci pour ça. Il y a en tout cas aucune raison qu'elle n'ait pas le droit de le faire. Et ensuite, l'actrice principale, Leslie Jones, a reçu des tweets et des insultes racistes. Alors, comme d'habitude avec les gens racistes, comme elle est black, et ben ils l'ont comparée à un gorille, très exactement. C'est la classe, hein. On peut dire que c'est aux États-Unis que ça se passe. Alors on a déjà eu ça en France, hein, puisqu'on avait un journal d'extrême droite qui avait comparé l'ancienne ministre de la Justice, elle aussi, à un singe. Et ben on se rend compte que tous les racistes du monde ont les mêmes atrophies du cerveau, puisqu'ils arrivent aux mêmes conclusions, qui comparent à un singe. Leslie Jones ou un autre ancien ministre de la Justice. Bizarrement, moi j'ai l'impression que les singes, les gorilles sont nettement plus intelligents que ces racistes-là. Hein, mais peut-être que je me trompe aussi. Ça a fait réagir un petit peu des gens. On notera quand même que Twitter a laissé passer toutes les insultes racistes. Hein, il a fallu que ça sorte dans la presse pour qu'ils réagissent enfin. Mais c'est pas la première fois que Twitter laisse passer du racisme, du fascisme. C'est juste pour dire que c'est quand même assez triste ce qui se passe et qu'on sent que la libération de cette parole raciste permet une remontée importante du racisme. On avait pensé quand même depuis les années 80 que toutes les campagnes antiracistes avaient eu un effet. Et en fait, on se rend compte qu'elles n'ont pas eu d'effet réel, elles ont eu un effet apparent, c'est-à-dire qu'il y a eu un voile qui a été posé sur ce racisme, et maintenant que le voile est déchiré, tout le monde se réexprime, et que malheureusement, moi j'ai l'impression que le racisme n'a pas tant reculé que ça, que ce soit aux États-Unis ou en France, ou ailleurs dans le monde. Alors je vais rester dans les racistes et enfin les gens. Alors je sais pas si les racistes, mais je pense. Enfin, si les racistes, puisque dans le racisme apparaît aussi pas que les notions de race, mais dans le racisme généralisé aujourd'hui dans le sens moderne, c'est aussi ceux qui sont d'une orientation sexuelle différente, les gens différents. Donc je vais parler de Mike Pence. Alors on le connaît pas encore bien, mais on va bientôt le connaître puisque il a été choisi glorieusement, dirons-nous, par Donald Trump pour être son vice-président. Quand il sera élu, et il est donc dans la campagne vice-président candidat à l'élection présidentielle américaine. Il est choisi par acclamation. Tout le monde a hurlé pour dire oui, je suis d'accord. Il paraît que c'est une tradition dans cette convention républicaine. Mais bon, voilà, ça fait un petit peu peur. Alors, ça fait un petit peu peur, pourquoi ? Parce qu'on va parler un petit peu des idées de Mike Pence. Alors, Mike Pence, c'est quelqu'un de pas du tout progressiste, vous imaginez bien. Alors, sur les femmes, par exemple, bon, il est très réactionnaire. Alors, bon, d'abord, les femmes n'ont pas intérêt à être lesbiennes, hein, parce que ça, il aime pas, il avait fait voter une loi, hein, qui... Alors, il avait tenté, et il se bat pour que il y avait une loi pour que quand un crime a lieu sous le prétexte de l'orientation sexuelle, il y avait un projet pour que le crime soit plus puni que quand c'est un crime bête et méchant dans la rue. Lui, il s'est mobilisé contre, parce qu'il voulait pas que l'orientation sexuelle apparaisse comme quelque chose qui doit être plus pénalisé. Voilà. C'est pas le cas en France, bien évidemment. Donc ça démontre qu'effectivement, que pour lui, c'est pas terrible l'homosexualité. Alors bon, il a fait pire, vous allez me dire, parce que il avait demandé que des fonds affectés à la lutte contre le sida soient redirigés vers des programmes qui encouragent les gays, je cite, à changer leur comportement sexuel. En fait, en gros, des programmes qui encouragent les gays à devenir hétéros. Voilà, c'est pour dire que bon, voilà, les femmes lesbiennes, ils n'aiment pas, les hommes gays, ils n'aiment pas. Bon, ça c'est fait. Alors, sur la religion, bon, bah, il est à fond dedans, hein, puisque c'est un religieux. Alors, il avait dit, alors j'ai plus retenu la phrase, hein, qu'il était croyant en premier, démocrate, enfin républicain plutôt, chrétien en premier, conservateur en deuxième et républicain en troisième. Donc pour lui, la religion, c'est au-dessus de tout. Il est littéraliste, hein, sur la religion, c'est-à-dire qu'il suit à la lettre ce qui est écrit dans la Bible, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors d'où son propos sur les femmes hétéros, je parle celles qui ont des enfants, alors parce que pour lui il est hors de question qu'une femme homo ait un enfant, bien évidemment. Il dit « Je n'aime pas les voir bosser ». Ah bon, mince. Bien sûr, vous pouvez tout avoir, mais vos enfants à la crèche seront désavantagés sur le plan émotif. Il avait écrit ça en 97. Bon, les femmes, si vous faites des enfants, vous arrêtez de travailler. Donc les femmes, c'est à la maison, ça fait le ménage, ça fait la bouffe et ça s'occupe des enfants. Alors je pourrais en citer plein d'autres, hein, je crois que j'ai raté des trucs. Ah oui, bien sûr, sur la contraception et l'avortement, bon, bah, il aime pas, hein, bien évidemment. Alors sur l'avortement, il s'était fait remarquer, puisqu'il a tout fait pour limiter voire compliquer l'avortement. Alors de deux manières, de plein de manières, il a agi. Notamment, il avait essayé de couper les vivres à une association de planning familial qui s'appelle Planned Parenthood. Et puis, il a fait voter une des lois les plus restrictives des États-Unis d'Amérique sur l'avortement. Alors ça met plein de contraintes supplémentaires sur les médecins qui pratiquent l'avortement pour les inciter à ne plus pratiquer l'avortement. Alors, ils sont pénalement responsables, par exemple, au cas où une femme avorterait pour des raisons ayant seulement lien avec un handicap, une maladie, le sexe ou la race. Alors, le sexe, je crois, à la rigueur, on peut dire, c'est pas terrible d'avorter parce qu'on n'a pas le sexe qu'on voulait sur l'enfant. Le reste, c'est compliqué. Voilà, il a limité les dons de tissu fœtal, et puis bon, voilà, il a obligé les médecins qui pratiquent l'avortement à être agréés par un hôpital ou un médecin lui-même agréé. Et du coup, comme il y a de moins en moins de médecins agréés, ça limite aussi le nombre de médecins, naturellement, le nombre de futurs médecins qui pratiqueront l'avortement. Voilà, il a obligé que les femmes passent une échographie 18 heures avant l'avortement, hein, pour bien leur montrer que le truc, regardez, c'est un bébé. Alors que non, hein, ce n'est pas un bébé. Quelques semaines, ce sont juste des cellules qui forment ce qu'on appelle un fœtus. D'ailleurs, il a obligé, à travers une loi, à ce que quand il y a une fausse couche, le fœtus soit enterré ou incinéré dans les formes comme un être vivant ou un être humain. Ce qu'ils ne sont pas encore, bien évidemment. Voilà, puis sur la science, on rappelle qu'il est contre l'évolution, parce que comme il le dit lui-même, Dieu a créé le ciel, la terre, les mers et tout ce qu'il contient. Et tout en même temps, bien évidemment, voir la Bible, c'est tout expliqué dans la Bible. Bon, on pourrait dire qu'en plus, il est pro-capitaliste, ça vous en s'en doutait. Il est anti-écolo. Alors par exemple, il a dit sur le tabac, malgré l'hérésie de la classe politique et des médias, fumer ne tue pas. C'est quand même assez incroyable de dire ça, fumer ne tue pas, alors qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers d'études qui montrent que le cancer des poumons est majoritairement dû par la fumée du tabac. Quant à la voiture, la pollution, la fumée des usines, il dit « le réchauffement de la planète est un mythe ». Bravo. Voilà ce qui a été choisi aux États-Unis d'Amérique. Bon, c'est pas loin de nos républicains à nous, finalement, hein, puisqu'ils sont républicains, ils ont tous le même nom maintenant. Hein, on sait que dans la bande à Sarkozy, il y en a plein qui pensent des choses se rapprochant. Monsieur Wauquiez, moi, je trouve un discours qui se rapproche pas mal de ce gars-là. Alors, nous, on a Wauquiez, bon, on leur souhaite pas d'avoir monsieur Mike Pence en vice-président, en tout cas.
Alors je vais continuer avec les joyeusetés de notre planète Terre. On va partir en Arabie Saoudite. Alors ça a du bon, les fêtes religieuses, puisque pendant un mois, personne ne s'est fait couper la tête au sabre en Arabie Saoudite. Mais ça a repris dimanche dernier, nous étions le 17 juillet. Première exécution après la pause du Ramadan, 96e exécution depuis le début de l'année. Il s'agit de Fahd Al-Hasni, un Saoudien qui a été condamné à mort pour meurtre. Et puis, parce que bon, un savoir-faire, hein, c'est vrai que ça se pratique, hein, il faudrait quand même pas perdre la main, hein. Le sabre, hein, ça s'apprend. C'était ce mardi, 98e exécution, 97 et 98e exécution. Il s'agissait de Mohamed Mokhtra et d'Ali Al-Siri, un Pakistanais et un Saoudien qui ont été condamnés dans deux affaires différentes, qui donc un pour trafic d'héroïne à grande échelle, comme le dit le communiqué du ministère de l'Intérieur, et puis l'autre pour une condamnation pour meurtre. Donc ça, c'était mardi. Et puis bon, comme je vous le disais, faut pas perdre la main, hein, puisqu'il y avait quand même du
retard. Il a eu un mois de chômage technique.
Hier, 90e exécution, Hassan El-Amri, reconnu coupable de meurtre lors d'une dispute. Il avait poignardé un autre Saoudien. Il a donc été lui aussi décapité au sabre. C'était hier. On attend le centième. La centième exécution. Je ne sais pas si là-bas, en Arabie Saoudite, il y en a qui vont faire la fête. Nous, ça ne nous fait pas marrer. Je vous rappelle qu'en 2015, et c'était un record depuis 20 ans, 153 personnes ont été assassinées par l'Arabie Saoudite. Il reste 5 mois pour cette année 2016.
C'est parti pour battre le record.
Ouais, ils n'ont pas voulu l'air de vouloir se calmer. Et puis, tu vas nous parler de la Turquie. On aura évidemment tous et toutes entendu que M. Erdogan souhaite rétablir la peine de mort pour virer ce virus. Hein, c'est de ça dont il a parlé. Je vous rappelle que la peine de mort est abolie depuis 2004 en Turquie.
Il ne fait pas si longtemps que ça.
Non, mais quand même. Hein, ça commençait à faire plus d'une décennie et on aimerait bien que ça dure.
Oui, alors vous avez tous entendu parler de ce coup d'État. Alors, on ne comprend pas tout comment un coup d'État a pu être aussi mal préparé, d'où les théories complotistes qui traînent sur qu'il l'aura organisé lui-même. Pour l'instant, on n'a pas d'infos qui valident quoi que ce soit. Hein. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a accusé des régimes étrangers d'être impliqués dans cette tentative de coup d'État. Je pense qu'il pense peut-être aux États-Unis d'Amérique. Faut dire qu'il a quand même laissé entendre que c'était le mouvement Gulen qui était derrière tout ça. Donc, dont le leader est réfugié aux États-Unis d'Amérique, c'est peut-être pour ça qu'il parle d'étrangers. Et le mouvement Gulen, qui pratique un islam différent hein, de celui de l'AKP, le parti de M. Erdogan. Et là, il en profite de ce coup d'État. Hein, c'est un peu du pain béni pour lui, puisqu'il va, il commence à faire du ménage de partout pour imposer sa vision et de la politique et de l'islam, hein, puisqu'il fait du ménage un peu partout. Donc, on vous avait pu entendre, mais aujourd'hui, on est quasiment à 60 000 personnes touchées par les purges. Le chiffre de cette fin d'après-midi. 6 000 militaires ont été arrêtés, 9 000 fonctionnaires du ministère de l'Intérieur ont été limogés, 118 généraux et amiraux sont en garde à vue. Alors, il y a ceux qui ont participé à la tentative de coup d'État, mais la majorité, pas du tout. La majorité, c'est juste qu'ils sont dans l'autre camp. Donc voilà, il y a eu presque 3 000 juges et procureurs arrêtés. Ah bah ouais, bah là aussi, hein, ils n'ont pas participé au coup d'État, mais ils sont dans le mauvais camp. D'ailleurs, ils ont été incarcérés, ces juges et ces magistrats, ces procureurs, avec leur famille aussi, hein, parce qu'on ne sait jamais si le fils ou le petit-fils avait les mêmes idées. On a appris d'ailleurs aujourd'hui que le Conseil de l'enseignement supérieur interdisait aux Turcs qui font des études supérieures d'aller à l'étranger. Des fois qu'ils soient contaminés par l'étranger et l'Occident notamment. Et on a appris aussi que le Conseil de l'enseignement supérieur avait demandé la démission de 1577 doyens d'universités publiques et privées, que 15 200 employés du ministère de l'Éducation sont suspendus, que 21 000 personnes travaillant dans l'éducation privée sont interdites d'enseigner. Il faut savoir que le mouvement Gulen a beaucoup d'écoles Souvent d'ailleurs les meilleurs du pays, et c'est eux qui sont visés à travers cette répression, qui est bien une répression à la fois politique et religieuse, hein, puisqu'il y a les deux dans l'AKP, hein, qui un islam radical assez proche des salafistes, et le mouvement Gulen, qui a un islam plus soufiste, un peu très différent de ce que propose l'AKP. Donc on est bien dans cette lutte là. Pour l'instant. Alors, vous allez me dire, les Kurdes n'ont pas tout pris dans la gueule. Non, parce que pour l'instant, il a ce prétexte-là pour éliminer son ennemi direct, qui est le mouvement Gulen. Après, il en profitera effectivement pour attaquer tous les Kurdes, comme il a déjà, de toute façon, déjà fait. Alors, au niveau des médias, ça a pas mal charclé aussi, peut-on dire, puisque 24 chaînes de télévision et de radio sont interdites, hein, ils ont perdu leur licence de diffusion. Ils ont, grosso modo, tous les médias qui soutenaient le mouvement Gulen, que ce soit écrit ou télé, radio, sont fermés, sont interdits. Des journalistes, au moins 34, sont privés de leur carte de presse. On rappelle qu'il y en a déjà quelques-uns qui sont sous le coup de la justice, qui ont été arrêtés ces derniers mois. Et puis aujourd'hui, on a appris que Wikileaks n'était plus accessible en Turquie. Alors c'est un concours de circonstances en fait, puisque Wikileaks, ils avaient récupéré, enfin quelqu'un avait balancé 300 000 emails de membres de l'AKP. C'était arrivé début juillet. Et ils étaient en train de les trier pour les mettre à la disposition du public. Et suite à la tentative de coup d'État, et surtout suite aux mesures répressives que l'AKP, à travers son dictateur-chef Erdogan, mettait en œuvre, ils ont décidé de révéler ces 300 000 emails qui expliquent beaucoup de choses sur ce qui se passe au sein de l'AKP, de la mise en œuvre de la politique de cet islam radical réactionnaire qui est porté par ce parti politique. Et ben donc, quand il y a eu ça, forcément, le gouvernement turc a bloqué Wikileaks. Donc depuis hier, Wikileaks est bloqué. Alors voilà, tu as parlé du rétablissement de la peine de mort. Il y a pas mal de choses qui arrivent. Ils ont supprimé tellement de postes, on ne sait pas bien ce qui va se passer. Ils vont mettre leurs amis. En tout cas, voilà, le régime a vraiment basculé dans le totalitarisme quasi complet cette fois-ci. On avait des doutes. Hein. Ça fait plusieurs mois que le régime se durcissait. Et là, quand on limoge des profs, des magistrats, bon, bah, il n'y a plus de questions possibles. Alors, les réactions des pays occidentaux ont quand même été très gentilles. Hein. Ils ont d'abord tous soutenu Erdogan, tout le monde a attendu un peu de savoir ce qui se passait. Je pense que si l'armée avait pris le pouvoir, les réactions auraient été mitigées sur le coup d'État. Ils n'auraient pas condamné, mais pas accepté non plus. Parce que tout le monde a envie quand même que Erdogan, dans les démocraties occidentales, dégage. Il faut quand même le dire. Bon, ils ont tous attendu, sont tous hypocrites jusqu'au bout. Quand Erdogan a gagné, tout le monde y est allé. Il faut sauver la démocratie, il faut soutenir Erdogan, tout ça. C'est quand même super hypocrite aussi, parce que soutenir Erdogan, c'est pas soutenir la démocratie, même si le coup d'État était bien évidemment condamnable. Vous allez me dire, la Turquie a l'habitude des coups d'État. Ils en ont eu quelques-uns depuis les années 70. Mais bon, voilà, en tout cas, que le coup d'État a été fomenté par l'AKP, ce qui sont quand même pas forcément probables, hein, ou qu'il soit juste fait par des branques qui n'avaient pas de soutien populaire, il y a eu une belle manipulation de la part d'Erdogan et de la population et du tout le service de sécuritaire qui, du coup, est entré dans une répression très importante. Donc, un pays à éviter, bien évidemment, la Turquie en ce moment.
Alors, il y a Oxfam, l'organisation, a sorti lundi un rapport. Dans ce rapport, l'organisation nous explique que plus de 65 millions de personnes ont dû se déplacer à cause d'un conflit, de persécution ou d'autres violences. Oxfam nous explique que c'est un nombre qui est extrêmement élevé, qui n'a jamais été aussi élevé depuis que des statistiques précises existent. Dans ce rapport, on apprend qu'un tiers sont des réfugiés, des demandeurs d'asile, mais que la majeure partie sont des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Alors évidemment, on pense à la Syrie. Donc, Oxfam nous rappelle que il faut se tourner aussi vers le Soudan du Sud, le Burundi, l'Irak ou le Yémen, par exemple. Et par rapport à cette situation, Oxfam nous explique que face à ça, on peut pas dire que les grandes puissances occidentales, l'Union européenne, aient tous les bras grands ouverts pour accueillir ces personnes déplacées. Alors, selon son rapport, Oxfam nous explique que les 6 pays les plus riches de la planète, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, la Chine, le Japon, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, qui représentent plus de la moitié de l'économie mondiale, accueillent 8,88% du nombre total de réfugiés dans le monde.
Et encore, je pense que si on enlève l'Allemagne, il reste 2%. Quoi.
Alors, effectivement, il faut prendre en compte qu'il y a l'Allemagne, mais Oxfam explique que même avec l'Allemagne, il y a un écart qui reste absolument considérable. Si jamais on prend en particulier la situation de l'Allemagne dans son accueil des réfugiés, Oxfam pointe à l'inverse que des pays moins riches se démènent. C'est le cas de la Jordanie, de la Turquie, jusqu'à présent c'était le cas, hein, les choses ont changé, le Pakistan, le Liban, l'Afrique du Sud. Oxfam fait aussi rentrer dans cette liste le territoire palestinien occupé. Des pays qui représentent moins de 2% de l'économie mondiale et qui accueillent plus de 50% des réfugiés. Un rapport qui est fait évidemment pour dénoncer. En septembre, il va y avoir une réunion. Oxfam espère, avec d'autres ONG, pouvoir peser contre ces situations, pouvoir critiquer, attaquer ces différents pays, dont le nôtre, hein, qui a décidé de ne pas être une terre d'accueil. En même temps, en ce moment, très franchement, vous ne seriez pas très bien accueillis. C'est ça aussi qu'il faut malheureusement dire, c'est que c'est pas une super situation. Voilà, donc vous pouvez, j'essaierai de vous mettre le petit dossier synthétique d'Oxfam sur cette situation sur notre blog internet, mais évidemment vous pouvez retrouver tout ça sur leur site Oxfam quelque chose, vous chercherez. Et alors on va parler de toute autre chose, on va parler des profiteurs, comme je vous le disais en introduction, on va parler du cartel des camions.
Pas les camions blancs, les camions en général.
Oui. Alors ça se passe au niveau de l'Union européenne.
Ils se sont entendus. Ils ont triché.
Entendus. Et donc, la commissaire européenne à la concurrence, Madame Vestager, a annoncé mardi une sanction contre ce cartel des camions. Une petite sanction. Une amende de 2,93 milliards d'euros.
Ah oui, c'est en milliards.
Ah mais oui, mais toujours au niveau de l'Union européenne. Alors, c'est un record, encore une fois. Hein, il faut dire qu'en ce moment, ça tape, et puis ça tape de plus en plus fort. Alors, ça touche des constructeurs comme Scania, DAF, Iveco, Volvo. Je vous rappelle que...
Volvo, ça fait partie de Renault Trucks. Hein. Ouais.
Et Daimler et MAN, qui sont des filiales de Volkswagen. Donc, du lourd, hein, quand même, on peut le dire. Alors, qu'est-ce que l'Union européenne, la Commission de l'Union européenne a reproché à ces groupes? Ben, de s'être entendu... pendant 14 ans, de 1997 à 2011, pour retarder l'introduction de technologies de réduction des émissions de dioxyde de carbone.
Ah, c'est pour ça que les camions polluent toujours beaucoup.
Et a priori, ça y a participé. Ah, hein. Ils se sont mis d'accord sur le calendrier et le niveau de la hausse des prix pour l'introduction de nouvelles technologies de réduction des émissions de CO2. Donc tout un système qui amène cette belle amende, hein, de plusieurs milliards d'euros.
Du coup, on se rend compte que si on avait interdit les camions, on aurait moins de pollution, on n'aurait pas cette amende et on n'aurait pas UNIS.
Ouais, alors il faut rappeler quand même que le pollution, il va dans le budget de l'Union européenne. Hein,
c'est déjà pas mal.
C'est déjà bien, c'est comme c'est ça au moins. Les sous servent à quelque chose, a priori.
Enfin, après, je sais pas quoi ils vont les mettre.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais
si
j'allais
les
dire,
dans Frontex, on n'est pas sûr.
Faudrait se souvenir quand même que avant ce record était détenu par un cartel des fabricants de téléviseurs à tubes cathodiques qui avait été condamné en 2012 à payer 1,47 milliard d'euros. Philips avait dû payer 313 millions d'euros. Rien que Philips avait déjà pris une belle amende à l'époque. Donc voilà, c'est dépassé, c'est même dépassé de beaucoup. Alors, tous les constructeurs ont reconnu ce qui s'était passé, mais évidemment, comme toujours...
Il y en a un qui a balancé.
C'est ça, ça s'appelle de la délation. C'est MAN qui a révélé l'entente et qui a priori a été exempté d'une partie de l'amende, une assez grosse partie, mais là j'ai pas eu les chiffres. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que les constructeurs s'étaient préparés à ces sanctions, puisqu'on savait depuis 2011 que l'Union européenne, la Commission enquêtait puisqu'elle avait fait savoir en 2011 qu'elle avait mené à bien des perquisitions et donc les constructeurs avaient provisionné sur leur compte ces sanctions futures. Et là on a des chiffres, donc on sait que, par exemple que Daimler avait provisionné 600 millions d'euros depuis 2014, on sait que par exemple que Volvo avait provisionné 650 millions d'euros, Iveco 500 millions d'euros, donc ces groupes étaient bien bien préparés à vivre cette sanction. Hein. Bon, depuis 2011, en même temps, il s'était passé du temps. Alors tout ça, ça a évidemment un impact très important, puisque là on parle des constructeurs de camions. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que c'est toute une chaîne qui a pu pâtir de cette entente. C'est les flottes des camionneurs, hein, des entreprises de camions, des chargeurs. Tout ça, ça va évidemment jusqu'après aux consommateurs, puisque il faut se rendre compte que ces six groupes détiennent 95% du marché européen.
Ouais, donc s'ils avaient décidé de mettre en œuvre les technologies qui diminuaient les pollutions, eh ben ça aurait eu un impact énorme.
Et puis que l'association, je vais donner un autre chiffre pour mettre un petit peu plus de poids, l'association européenne des constructeurs automobiles explique que 90% des biens circulant en Europe sont transportés à un moment ou à un autre par poids lourd. Donc ça veut dire qu'on est forcément tous et toutes touchés par cette entente. Ça a l'air loin de nous, hein, comme ça, un camion. Hein. C'est vrai qu'on n'en a pas tous et toutes à la maison. Hein. Mais non, puisque ben pour transporter vos tomates que vous avez dans votre supermarché, hein, puisque c'est comme ça que c'est transporté, eh ben il y a eu un poids lourd, et ce poids lourd, eh ben il vient d'une entente, et cette entente, eh ben elle a des répercussions tout au long de la chaîne où un camion va pouvoir intervenir. On peut penser aussi que la commission et Madame Vestager ont voulu montrer quelques réactions après l'affaire Volkswagen, hein, le Dieselgate, où il y avait eu pas mal de critiques en disant qu'ils avaient un peu laissé faire, même en France. Hein, Madame Royal a été attaquée pour finalement avoir été très gentille avec les constructeurs. Donc là, voilà, il y a un coup qui a été donné. Bon, c'est quand même un cartel de plus. On en a quand même assez souvent maintenant. Et je crois que tu voulais nous parler de science.
Oui, alors ben, j'ai deux petites infos qui sont courtes, mais qui ont peut-être des liens. D'abord, la première, c'est une petite découverte scientifique. Alors, ils ne s'attendaient pas du tout à ça. C'est des chercheurs qui ont étudié au Rwanda des gorilles femelles et qui ont essayé d'étudier leurs ébats sexuels, notamment quand elles sont un peu rejetées par les mâles. L'étude est dirigée par le docteur Cyril Greter. Il vient d'Australie, si j'ai bien tout compris. Et il se posait des questions sur l'homosexualité chez les gorilles femelles. Depuis un certain temps, ils avaient noté certains comportements. Donc là, ils ont décidé de suivre ces gorilles et ils les ont observés pendant un temps très très long. Ça a été publié dans une revue sérieuse, le résultat. Et ils se sont rendus compte qu'elles avaient beaucoup plus de contacts homosexuels que ce qu'ils imaginaient, puisqu'ils ont observé 44 cas de contacts lesbiens dans ce groupe de gorilles. Donc ça les a surpris qu'il y en ait autant. Hein. Ils sont allés plus loin dans leurs études, ils ont cherché pourquoi il y avait ces contacts lesbiens. Et ils se sont rendus compte que c'était juste la recherche du plaisir qui motivait ces femelles. Donc, hein, pour celles et ceux, notamment comme le colistier de M. Trump, qui pense que l'homosexualité c'est une déviance, c'est pas naturel, tout ça, et ben c'est une des multiples preuves de la nature que ben non, c'est un phénomène totalement naturel qui existe dans beaucoup beaucoup d'espèces vivantes sur Terre. Et là, les gorilles en sont un gros témoignage, hein, puisque ils ont fait une grosse étude, ils ont bien mesuré que ces contacts lesbiens étaient très courants dans ce groupe de gorilles observés du côté du Rwanda. Voilà. La deuxième chose qui n'est pas tout à fait en lien, mais qui pourrait peut-être expliquer le développement peut-être de la pensée rationnelle, fait que aujourd'hui, alors c'est révélé, on en a déjà parlé une fois, mais je le redis les chiffres, c'est un sondage international sur les gens qui croient, qui sont religieux, qui pratiquent une religieuse, qui sont athées, etc. Le chiffre, hein, c'est grosso modo 63% des Français interrogés ne s'identifient à aucune religion. Alors ils ne sont pas tous athées, il y en a un tiers seulement des Français à peu près qui est athée, donc qui rejette les religions et qui rejette la croyance, hein, qui est rationaliste on va dire plutôt, l'autre tiers on va dire, les 40% qui restent, qui s'identifient pas à une religion, ils pensent que peut-être qu'il y a un truc au-dessus d'eux qui existe, un truc un peu flou, mais en tout cas ils adhèrent pas aux religions. Ça fait de la France un des pays les moins soumis aux doctrines religieuses, hein, donc un des pays les plus libres au niveau de la conscience, ce qui est plutôt rassurant, même si on sait que ça recule. hein, puisqu'il y a un développement relativement récent, ces 10 dernières années, du fait religieux qui reprend de l'ampleur contre le fait rationaliste qui recule aussi. Donc voilà, c'est un chiffre qui est toujours sympathique à avoir quand on, parce que si vous allez voir dans des pays où souvent la religion est plus forte, et d'ailleurs en général il y a moins de liberté, hein, c'est bizarre aussi. Mais vous, voilà, on se dit que la France, comme certains pays du nord de l'Europe, sont des exceptions et qu'on va se battre, hein, pour que les exceptions continuent d'exister, puisque c'est pas facile, hein, de conserver le droit de ne pas croire et de ne pas adhérer à une religion.
Alors moi je vais vous dire, je les attends ces Jeux de Rio.
Ah, c'est bientôt, bientôt.
Ils débutent le 5 août, hein. Moi j'ai réservé tout mon mois d'août rien que pour ça, évidemment. Oui,
d'ailleurs tu pars là-bas je crois. Hein.
Ah tout à fait, tout à fait. Je les attends parce que alors déjà, bon, j'aimerais savoir dans ces athlètes qui vont devoir aller dans la baie se mouiller, combien vont être malades. Oui, je sais, j'ai l'air méchante comme ça, mais enfin on les a prévenus, hein, depuis des mois. Toutes les analyses montrent que ça va pas vraiment mieux, malgré ce qu'on veut bien nous raconter. Il y a un peu de tension quand même, hein, toujours à Rio. Il faudrait aussi se rappeler que c'est pas une ville tout à fait tranquille.
Et non, puis... mais en plus, ils sont en dépôt de bilan.
Ah oui, non, mais ça,
financièrement,
ça,
ils sont à la rue totale.
Mais je veux dire, c'est normal presque. Ouais. C'est une grande manifestation sportive. Les collectivités se mettent dans le rouge pour.
Mais je crois qu'elle l'était avant.
Oui, elle l'était dans le VOM. Alors. Ça a pas amélioré les choses, et puis il faut rappeler que l'État a mis pas mal de pognon à chaque fois.
C'est
et là,
ce qui a sauvé les JO.
Ouais, enfin, sauf que là, ils ont décidé que c'était fini. Donc, il va falloir qu'ils se démerdent, hein, sur place. Je pourrais dire qu'ils vont pousser le métro. Enfin,
ouais, parce
comme
que
ça.
Tout n'est pas fini. Hein.
Ah bah, ils tentent. Hein. Le 5 août, je vous disais que ça commence. Et puis, il y a ces affaires de dopage qui empoisonnent la vie du sport. Hein. Bah ouais, ça empoisonne, hein, tout ça. Et alors, c'est une affaire, moi, qui me fait bien marrer. Ça vise ces athlètes russes. Alors, ils sont 68 athlètes russes à ne pas pouvoir se rendre à Rio le 5 août prochain, puisque le tribunal arbitral du sport a rejeté aujourd'hui l'appel du comité olympique russe et des 68 athlètes russes qui contestaient, excusez-moi, leur suspension par la Fédération internationale de l'athlétisme et leur inéligibilité pour les Jeux de Rio. Et donc, le tribunal arbitral du sport a suivi la Fédération internationale d'athlétisme et a confirmé la décision. Hein. Tout le monde est donc suspendu chez ces 68. Maintenant, reste à savoir combien d'autres vont être suspendus et si ça va être plus large. Alors, il faut se souvenir que tout est parti d'un rapport, le rapport McLaren, qui a permis de mettre à jour un dopage d'État généralisé à tous les sports entre 2011 et 2015. L'Agence mondiale antidopage réclame que toute la délégation russe, et pas seulement les athlètes, soit exclue des Jeux de Rio. Hein, voilà, il faut mettre tout le monde dehors, écarter ce qui sent mauvais, parce que dans le sport, on sait bien que le dopage, il est globalement
tout sent mauvais,
voilà. Généralisé. Mais là, la Russie, quand même, ça se voyait, et en plus de ça, ça semble être organisé...
par l'État.
Quelque chose assez large, hein, moi ça me rappelle...
les Soviétiques, un peu.
Les Soviétiques.
Ou la Chine.
Ouais, exactement, c'est ça, qui se sont déjà fait prendre aussi à ces niveaux-là, même s'il y a des choses qu'on a su plus tard. Du côté russe, on parle d'une décision politique, c'est un scandale. Alors, il faut vous imaginer, si vous n'avez jamais vu Monsieur Vitali Mutko, le ministre des Sports, vous prenez un film hollywoodien avec des Russes à l'intérieur ou des Soviétiques à l'intérieur. Vous voyez la caricature ?
Eh ben, c'est lui.
Eh ben, c'est lui.
Il fait peur, tu veux dire. C'est méchant russe.
Ouais. Non, mais puis il en a cette espèce de caractère. C'est pas même pas bougon, vous voyez. C'est le
puis
truc.
Il est un peu cette arrogance, un peu.
C'est viril, hein, ouais. Quand même. C'est viril, c'est arrogant. Ça menace aussi, puisque tout ça est absolument. Incroyable, c'est une décision subjective, paraît-il. Alors, tout ça est aussi un petit peu chez les Russes appuyé sur ce qui s'est passé à la base. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les agences antidopage des États-Unis d'Amérique et du Canada ont appelé à exclure la Russie des Jeux Olympiques de Rio. Et donc, on y voit la mainmise du complot nord-américain. Vous voyez un petit peu ? Ah, ben je vous ai dit, caricature. Hein. Et donc, évidemment, côté politique, côté russe, ben, on se sert un petit peu de tout ce qui peut servir la cause russe. Le sport a été mis à l'honneur ces derniers temps, hein, par Monsieur Poutine, une idée très virile qui, moi, me rappelle d'autres régimes autoritaire, dictateur, avec des dictateurs, ou voire même le nazisme hein, aussi, avec le culte du corps, le culte du sport. En Russie, Poutine permet donc aux jeunes, aux enfants d'apprendre à se servir d'une arme. Hein, tout ça aussi est généralisé. Donc on a ce côté très viril et le sport en fait partie. Hein, il faut montrer que la Russie c'est une puissance. Et donc c'est pour ça hein, qu'il y avait eu les Jeux de Sochi en 2014, qu'il y aura le Mondial de football en 2018. C'est que le sport est vraiment devenu une propagande aussi en Russie.
Ouais, ça fait longtemps. Hein, que
ça fait longtemps, mais là c'est vraiment remis au goût du jour. On y met de l'argent et donc on y met le dopage. Pour l'instant, ça marche pas bien. Alors on en saura un peu plus dimanche puisque le Comité international olympique doit se réunir pour savoir si c'est tout le monde qui est viré.
Ouais, ça fait très guerre froide hein, quand même, puisque pendant la guerre froide, on avait ça, hein, les athlètes de l'Est qui étaient tout pourris, contre les athlètes de l'Ouest qui étaient tout pourris, mais moins, où ça se voyait moins, parce qu'il faut quand même pas non plus faire semblant que personne n'est dopé de l'autre côté, hein. Tout le monde utilise des produits.
Parlons à ceux qui font le Tour de France, là.
Ouais, ben, y a eu très peu de personnes dopées, bizarrement, chopées en tout cas. Pourquoi ? Bah peut-être que les contrôles sont moins forts, peut-être que on n'en parle pas, peut-être que ils ont trouvé des astuces. Enfin voilà. Après, là, peut-être que la solution c'est d'arrêter de contrôler et de laisser le dopage généralisé, puisque de toute façon il l'est généralisé. Et puis après, on verra bien. S'ils ont envie de crever en prenant des produits chimiques, c'est leur problème après tout.
Ouais, il faut se souvenir hein, quand même que sur le Tour de France, il y a eu l'affaire Armstrong, où toute l'équipe était très organisée pour récupérer toutes les seringues, toutes les poches, tous les produits. Il paraît que c'était caché dans les appliques, dans les chambres d'hôtel, que c'était que des fois, parfois, c'était la moquette qui était démontée, que tout un système de poubelles était mis en place pour ne laisser aucune trace. Enfin, un truc de fou. Donc tout ça est très très organisé. Et puis il y a des spécialistes à l'intérieur qui évidemment en font leur beurre, qui sont associés à personne à part à eux-mêmes et qui vont aussi rencontrer les sportifs de tous bords pour leur proposer quelques savoirs chimiques pour les aider à être plus forts et à gagner, paraît-il. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on gagne, ben, y a des pépettes aussi.
Ah oui.
Il n'y a pas que la fierté, il n'y a pas que l'honneur.
Ouais. Bon, ceci dit, on supprimerait les compétitions. Hein. On ferait du sport sans compétition, on n'aura peut-être plus de dopage. Hein. Parce qu'il suffirait de participer. C'est ça qui compte, non ?
Ouais, il paraît que c'était ça à la base, je te rappelle. Donc, la grande idée des Jeux Olympiques.
On ne devrait pas compter les points, on devrait faire jouer les gens, les regarder, on est content de... Hop, et on compte pas les points. Et on compte pas le temps.
Ouais, alors ça c'est trop à demander à l'être humain qui aime quand même bien se confronter à son voisin. Ouais. Ça, on est tous et tous comme ça.
Bon.
Tu n'aimes pas perdre, hein, toi, au Scrabble, par exemple.
Ah mais moi je perds jamais, ah, voilà. C'est pas pareil. C'est pas pareil, il faut pas confondre. L'association, je vais vous parler de l'association Les Droits du Piéton, une association qui essaye d'aider, de sanctuariser en fait le trottoir pour empêcher tous les énergumènes méchants d'être sur le trottoir, sauf s'ils sont piétons. Hein, on les a vus combattre les voitures qui se garaient sur le trottoir, des choses comme ça. Donc, on aurait pu les classer comme une asso écolo, vous allez voir, pas du tout en fait. Donc, je sais pas quand cet asso a viré, hein, puisque moi j'ai fait des choses contre les voitures avec elles et ils avaient l'air plutôt respectables. En tout cas, ils ont pas mal vrillé ces dernières années. En tout cas, on peut remonter à l'été 2013 où l'association Droits du Piéton a intenté une série d'actions, d'abord gracieuses et puis contentieux, c'est-à-dire devant la justice, pour faire annuler un arrêté instituant à Paris le tourne à droite cycliste au feu. Alors, le tourne à droite cycliste au feu, c'est quelque chose d'assez simple. Quand le feu est rouge pour avancer tout droit, si le tourne à droite existe, il y en a quelques-uns à Lyon, très peu malheureusement, et vous avez le droit de tourner. Bien évidemment, vous n'êtes pas prioritaire quand vous tournez, c'est-à-dire que c'est un piéton qui traverse, vous le laissez traverser, mais vous pouvez tourner sans vous arrêter au feu. Alors ça, Droit du Piéton, il n'en veut pas. Il est contre le tourne à droite cycliste au feu. Ils ont pris un exemple à Paris, hein, qui est un tourne à droite qui est sur l'angle de la rue de Rivoli et la rue du Temple, pas loin de l'hôtel de ville de Paris. Alors c'était un choix qui était sûrement symbolique parce que c'était près de l'hôtel de ville. Et l'idée, c'était de créer un précédent juridique. Donc ils sont allés en justice. Leur argument, alors ils n'en ont pas du tout, ils disent que ça aurait augmenté la dangerosité et les accidents avec les piétons. Ils sont allés en justice, ils ont été déboutés une première fois en 2014 et est arrivé il y a quelques semaines le rendu de la cour administrative d'appel. Et ils ont dit qu'ils pouvaient aller se faire voir, grosso modo. Je vais citer ce qu'ils ont dit, et pour vous comprenez bien, alors il y a un gros argumentaire, c'est le principe de la cour d'appel, hein, il y a un gros argumentaire très rédigé. Ils disent par exemple, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce dispositif aurait entraîné une hausse des accidents au carrefour concerné. Que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation pour les cycles de tourner à droite au feu rouge au carrefour concerné serait inadaptée, ni qu'elle représenterait un danger pour les piétons ou les cyclistes. Bref, il n'y avait rien dans le dossier. Voilà, et alors on notera que la cour administrative d'appel a rejeté 3 autres quêtes de cette même association. Voilà, bon, grosso modo, c'est une bonne nouvelle pour les cyclistes parisiens, hein, qui vont continuer de pouvoir tourner à droite. Ce qui est bizarre, c'est pourquoi cette association du droit du piéton a fait ça. Alors, ils l'ont pas fait sur les tournes à droite de voiture. Vous savez, les tournes à droite de voiture, c'est quand il y a un feu rouge, des fois il y a une file avec une flèche verte qui permet de tourner à droite. Là, par contre, ça a toujours été un petit peu accidentogène. Si vous êtes piéton, faites toujours un peu attention quand il y a une file de voiture sur la rue perpendiculaire qui tourne de votre côté, parce que vous n'êtes jamais sûr qu'il s'arrête. Ben, bizarrement, ils ne sont jamais attaqués à ça, en tout cas devant la justice. Donc il y a une vraie volonté de cet assaut de droit du piéton d'être contre, finalement, tous les autres. Il n'y a que les piétons, ils n'ont jamais eu, et c'est pour ça qu'ils sont du coup maintenant mis de côté par les assos qui luttent notamment contre la voiture, parce qu'ils n'ont jamais remis en cause la voiture. Ils font comme finalement la majorité des gens, ils estiment que la voiture elle est là, il faut l'accepter telle qu'elle est, il ne faut pas lutter contre, il faut juste réserver des espaces pour les piétons pour pas qu'il y ait de danger avec la voiture. Du coup, ils vont jamais dans le bon sens, jamais dans le sens de concertation pour essayer de trouver un équilibre, en tout cas plus que ce qui est aujourd'hui où la voiture a presque toute la place, le vélo très peu et le piéton un peu plus. Donc voilà. D'ailleurs, ils sont un peu dépassés par une autre asso qui est plus ouverte, presque plus écolo que ces droits du piéton. Donc voilà, c'est juste pour montrer que une association comme ça qu'on pouvait trouver pas mal, qui faisait des actions pour empêcher que les voitures se garent sur les trottoirs, des choses comme ça, ben on se rend compte qu'en fait, eux aussi, ils ont un côté radical et intégriste dans leur mode d'action, et que c'est pas du tout une association qui pourrait défendre des développements doux, parce que les piétons, la marche à pied, c'est dans les développements doux, pas du tout, ils défendent juste leur carré, qui est leur bout de trottoir, point. Le reste, ils s'en foutent. Donc voilà, c'est un petit peu triste de voir ça, mais bon, la justice leur a pas donné raison. Donc voilà, on espère un jour d'ailleurs que les tournes à droite pour les voitures peut-être soient limitées et que les tournes à droite pour les vélos soient généralisées, ce qui n'est pas du tout le cas à Lyon. Il y a très peu de carrefours qui l'autorisent, il y a un petit panneau pour le dire, alors que ça pourrait être fait sans problème et finalement sans de gros dangers. Et ça fluidifierait surtout la circulation, enfin bon, la circulation des vélos, ils n'ont pas besoin d'être fluidifiés vu qu'ils ne représentent quand même que quelques pourcents de la circulation en ville. Donc on est loin d'avoir des embouteillages encore à vélo à Lyon, malheureusement. Voilà pour ce Canu Info. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Est-ce que tu as quelque chose dans l'agenda ?
Pas du tout.
Donc voilà, on sera peut-être là la semaine prochaine, ou pas, vous verrez, vous entendrez. L'émission d'après nous n'ont pas l'air d'être là. Ils n'étaient déjà pas là les semaines précédentes. Ils sont partis en vacances. Hein. On espère que leurs auditeurs sont partis en vacances aussi avec eux et avec elles. Donc voilà, on espère qu'il y a d'autres Canu Info. Je ne suis pas sûr. On essaye de résister un petit peu à l'appel des vacances pour continuer de donner des informations. On ne sait pas jusqu'à quand on va résister. Vous ne nous en voudrez pas à un moment de craquer aussi et de partir quelques semaines en vacances. Donc voilà, restez à l'écoute de Radio Canu, la plus rebelle des radios. N'hésitez pas à aller voir ce qui se passe sur les blogs, ça vous donnera une idée des émissions qui continuent d'avoir lieu et celles qui sont à la plage, les doigts de pied en éventail. En attendant, bon été.
Ciao, ciao.
Bye, bye.